man Idrissa Diop mo meuna tollu radio grési bonan rek lay dig ndax lima soxla momo koy jox ci 89 87.1
1000 accents s'entremêlent dans les cours de français donnés dans ce centre social de quartier. Demandeurs d'asile, salariés, réfugiés, femmes et hommes des quatre coins du monde, lettrés ou jamais scolarisés, jeunes et personnes âgées, tous viennent apprendre une langue et tromper la solitude de l'étranger en France. Ce livre leur donne la parole. Ce livre s'appelle « Personne ici ne sait qui je suis » et je vous en lisais à l'instant le résumé. C'est une BD dans laquelle on découvre des portraits de personnes exilées, de migrants, aux parcours tous très différents, mais qui se retrouvent souvent face aux mêmes obstacles arrivés en France, entre autres la lutte contre l'isolement social, la quête de la régularisation ou encore, bien sûr, l'apprentissage de la langue française, entre autres. On découvre donc leur histoire à travers le quotidien de Colline Picot, professeure de français pour étrangers, autrice et dessinatrice à Grenoble et donc auteur de Personne ici ne sait qui je suis. Et aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de l'accueillir sur Radio Grésivaudan. Bonjour Colline.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter notamment cette belle BD Personne ici ne sait qui je suis. C'est une BD qui est sortie il y a déjà 4 années, si je ne me trompe pas, mais qui reste tout autant d'actualité. Depuis, vous avez aussi sorti plein d'autres bouquins. Mais donc, avant toute chose, avant qu'on parle de ce livre, j'aimerais vous poser quelques questions sur vous, votre travail. Vous travaillez dans des centres sociaux à Grenoble, qu'on appelle Maison des Habitants, ou MDH. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionnent ces lieux, de qui ils dépendent, quelles sont les personnes qui s'y côtoient?
Oui, bien sûr. Alors, moi, je travaille à la Maison des Habitants Centre-Ville, et à Grenoble, il y a plusieurs Maisons des Habitants dans chaque secteur, on va dire, il y en a une ou deux. Et en fait, on dépend de la ville de Grenoble et on est plusieurs, on est fonctionnaires et on accueille différents types de publics. Il y a différents pôles en fait, des collègues qui s'occupent plus des personnes âgées, d'autres davantage des familles, etc. Ou pour les gens qui ont des difficultés à faire les formalités ou aller sur Internet, les démarches. Et moi, je m'occupe vraiment du pôle, on va dire, linguistique, de l'apprentissage du français aux étrangers.
Et quelles sont des personnes qui travaillent là-bas, quelles sont les professions un peu qu'on y rencontre?
Alors il y a voilà, écrivain public, référent de famille, il y a médiateur père santé, pôle d'activité intergénérationnelle, agent de développement local. On est vraiment assez nombreux sur des corps de métier très différents et l'idée c'est d'accueillir les habitants du quartier pour les aider un peu dans la vie de tous les jours.
Vous, dans cette structure, vous y donnez, donc si je ne me trompe pas, des ateliers sociolinguistiques ou ASL. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est?
Oui, on ne dit pas, en gros, c'est des cours de français, mais on dit ASL, ateliers sociolinguistiques, parce qu'on est plus sur un français qui vise à mieux comprendre l'environnement français, la vie quotidienne, pour que les gens, ça soit plus facile en fait. D'apprendre le français, un français quotidien et utile. Donc, on appelle ça atelier sociolinguistique. À peu près chaque apprenant a 4 heures de cours par semaine. C'est beaucoup des bénévoles qui les donnent, et puis moi aussi. Et on a aussi des cours plus spécifiques, qui sont des cours d'alphabétisation. Et là, ça va concerner les personnes qui n'ont jamais été à l'école dans leur pays d'origine. Mmh. C'est assez grand. Nous, on accueille à peu près 150 apprenants, on dit apprenants, chaque année. Voilà.
Vous, donc, juste dans l'AMDH dans laquelle vous travaillez?
À Centre-Ville, okay. Ouais.
Est-ce qu'il existe d'autres, par exemple, structures qui peuvent donner ce genre de cours à Grenoble, par exemple, ou ailleurs?
Oui, dans chaque Maison des Habitants à Grenoble, il y a des ASL. Et aussi à Saint-Martin-d'Hères, à Échirolles, à Fontaine, à Mélan, à La Tronche. Un peu partout, en fait. Il y a un gros réseau d'ateliers de français pour les étrangers qui a été mis en place, ouais. Mmh.
Pour les étrangers, donc personnes qui ne parlent pas forcément français, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces personnes? Peut-être, quels sont les profils en général qu'on y retrouve dans ces ASL?
On a un peu de tout quand même, c'est très varié. Mais donc on va voir si on peut distinguer en deux gros parties, on va dire. Il y a les gens donc, qui n'ont jamais été à l'école dans leur pays d'origine, et qui peuvent venir de l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest par exemple, où des femmes, elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école quand elles étaient petites, pour différentes raisons, ou d'Afghanistan par exemple, ou des pays en guerre où c'est compliqué d'aller à l'école à des moments donnés. Donc on a ces ateliers-là qui sont vraiment des ateliers d'alphabétisation. Et après, on va avoir d'autres gens qui viennent d'arriver en France, par exemple, et qui parlent pas un mot, mais qui ont été à l'école dans leur pays d'origine, ou à l'université même. Hein. Et d'autres gens qui parlent un petit peu, ou plus ou moins bien. Donc on fait un peu des ateliers de niveau, selon où en sont les personnes à ce moment-là, quand ils arrivent à nous. Mmh. Puis après, on a des ateliers de conversation, on a des ateliers artistiques aussi pour... voilà. En fait, l'idée, c'est que les gens ils se sentent bien ici, et que du coup, ils fassent des rencontres, qu'ils se sentent plus tout seuls, et en rencontrant d'autres personnes, qu'ils aient envie d'utiliser la langue française pour pouvoir améliorer ses amitiés, etc., faire du lien. Donc on travaille à que ce lieu il soit chaleureux et donner une place aux gens, en fait. Mmh. Et ainsi, ils peuvent mieux apprendre le français, en fait.
Mmh. On comprend le pourquoi sociolinguistique est... Donc plus que juste de simples cours de français, comme vous le disiez, ça leur apporte vraiment d'autres choses que juste l'apprentissage de la langue, quoi.
Oui, voilà, parce que c'est la langue, c'est pas que, et la vie en France, c'est pas que la grammaire et la conjugaison. Il y a tout un système de codes, de culture à comprendre aussi. Comment on fait la queue, les règles de politesse. En fait, selon les pays et selon les cultures, tout est très différent. Donc nous... On explique aussi comment ça marche ici, on explique les administrations, comment remplir un formulaire. Voilà, on essaye d'aider au plus près les personnes dans leur vie quotidienne, en fait.
Et vous disiez que ce sont pour beaucoup, pas que, mais pour beaucoup des bénévoles qui dispensent ces cours. C'est des bénévoles que, du coup, vous formez à apprendre le français et puis à apprendre les codes, comme vous dites, ou enfin, comment ça se passe un petit peu?
Oui, c'est ça. Ils ont des formations avec moi ou avec une autre structure. Et puis voilà, petit à petit, ils prennent en charge un atelier et ils découvrent comme ça aussi l'enseignement aux étrangers. Mmh. Oui.
Avant d'en venir à votre livre, bien sûr, livre BD ou roman graphique, j'ai vu parfois. Bon, bref, avant d'en venir à là, et dernière question, qu'est-ce qui vous a fait vous diriger, vous, vers ce métier? Et quel a été votre parcours avant en termes d'études, de formation?
Moi, j'ai fait un master de sociologie et après, un peu par un concours de circonstances, j'avais commencé à faire du bénévolat dans un CADA, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Et c'est là où j'ai eu envie de me tourner plus vers l'apprentissage du français aux étrangers. Ensuite, j'ai fait un master de français langue étrangère, donc vraiment l'enseignement du français aux étrangers. Et après, petit à petit, j'ai trouvé ce travail... à la maison des habitants en centre-ville.
Okay. Donc venons-en à Personne ici ne sait qui je suis, cette BD dans laquelle on découvre de nombreux portraits de personnes au parcours très différents les uns des autres, certains vraiment durs et parfois horribles, je ne sais pas comment les définir autrement, tellement qu'en lisant on oublie presque que c'est réel parfois, comme si notre cerveau faisait une espèce de déni de la réalité. D'autres parcours, bien sûr, un peu plus doux, mais tous très différents, en tout cas. Ces portraits, ils sont basés sur des interviews de ces personnes que tu as soit eues en cours et que tu as retranscrites, du coup, dans la BD. À la base, pourquoi est-ce que vous saviez précisément, en fait, pourquoi vous faisiez ces interviews? Est-ce que vous aviez cette idée de BD en tête lors de votre première interview?
Oui. Oui, quand j'ai fait les interviews, je savais déjà que j'allais faire le livre. Mais tout au long de l'année, j'avais pris des notes quand même à des moments d'échanges qui se passaient dans mon bureau ou des petits moments comme ça. Ça, j'avais pris des notes. Et après, j'ai voulu montrer en fait la diversité des personnes qui viennent. Comme tu l'as dit, il y a des gens qui ont des histoires très très difficiles, qui viennent de pays en guerre ou qui sont passés par la Libye, qui ont vécu la torture, hein, clairement, donc des choses très très difficiles. Et d'autres gens qui sont venus pour des raisons plus agréables, l'amour souvent ou le travail, et tout le monde se rencontre ici. Et c'est ça que je trouvais fascinant, en fait. C'est que tout le monde était réuni autour de cet apprentissage de la langue et qu'on oublie un peu, disons, les parcours de vie. Et les gens arrivent à se délester de ça pour être seulement étrangers ici et un peu égaux devant l'apprentissage de la langue. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et aussi de donner la personne la parole individuelle. Parce que souvent, on a des discours un peu larges comme ça sur la migration, les étrangers, les migrants. Et en fait, on se rend compte que chaque histoire est une trajectoire individuelle, comme un destin vraiment, et que c'est pas une masse comme ça. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir des parcours très très différents. Autant une Brésilienne qu'une Sri Lankaise, qu'une Syrienne, ou un Guinéen, un Érythréen, un Afghan, avec qui j'ai passé plus de temps, et les interviews sont plus longues d'ailleurs, aussi longues que leur chemin pour arriver jusqu'à nous, hein, finalement.
C'est vrai qu'il y a des formats très différents dans la BD. Des fois, c'est des témoignages qui durent une ou deux pages. Parfois, on en a en plusieurs parties d'une dizaine, vingtaine de pages. On a plein d'histoires très différentes, comme vous le dites. Est-ce que vous vous souvenez peut-être de la toute première interview que vous avez faite? Avec qui était-ce?
Ben non, je me rappelle pas. non, je sais pas. Peut-être que j'ai commencé par l'Afghan. Okay. Mais je suis pas sûre. Je sais, oui, peut-être par l'Afghan quand même. Mm. Mais je l'ai fait en plusieurs étapes, cette interview. Elle a été très longue.
Et, ouais. Et est-ce que justement vous les avez toutes utilisées ou du moins retranscrites dans la BD, ou il y en a certaines qui sont juste à jamais gravées sur votre enregistreur ou votre carnet? Je ne sais pas comment vous les retranscriviez.
La plupart, je les ai quand même enregistrées parce que c'est plus facile pour garder la façon de parler des personnes. Je trouve que c'est important. Et puis en plus, c'était beaucoup de personnes qui ne parlaient pas toujours très bien français. Donc j'avais besoin de plusieurs écoutes et puis de retravailler avec eux pour être sûre d'avoir bien compris. Donc le micro, il est quand même à ces moments-là précieux. Mais à d'autres moments, j'avais un carnet. Donc avec l'Érythréen, j'ai beaucoup écrit aussi, avec l'Afghan aussi. Ça dépend ça. Mais globalement, les interviews que j'ai faites, elles sont dans le livre.
Okay. Est-ce que du coup, justement, c'était dur de recueillir ces témoignages, dans le sens, est-ce que les personnes étaient toujours enclins à parler pour raconter leur histoire, ou parfois c'était plus compliqué de faire sortir les mots? Comment ça se passait?
Ben, tout dépendait des histoires. Les histoires faciles, on va dire, ou en tout cas de vie où les gens sont venus par choix en France, ben ça c'était plutôt facile. Après, les histoires difficiles, comme le Guinéen, par exemple. Je sais que quand il a commencé à me raconter son histoire, il a directement parlé de la Libye et de son ami qui s'est fait tuer devant lui. Et il a tout... j'ai vu dans ses yeux qu'il revivait tout, en fait. Et là, très vite, il s'est arrêté et il m'a dit, bah voilà, ça y est, c'est fini. Je t'ai tout raconté. Et après, on a pris le temps, on a discuté ensemble pour faire une pause, ce que ça lui faisait. Et après, il a dit, ok, non, en fait, je vais trop raconter. Et on est parti plus en détail, en fait, sur tout ce parcours-là. Et donc, pour moi, c'était un peu compliqué parce que je ne savais pas dans quelle mesure je remuais un peu la douleur et le traumatisme. Et dans quelle mesure, ça, quelque part, ça libérait les personnes aussi. Et bon, après, je pense que les gens, s'ils ont raconté, c'est qu'ils se sentaient de raconter, en fait. Hein. Mmh. Parce que je force pas, donc... Mais ça a été des moments très, très, très durs, hein, d'histoire très dure, d'entendre des choses atroces comme ça, et quand on a les personnes en face de nous, de se dire, oh là là, mais il y a des gens qui leur ont fait mal à ce point-là. En fait, c'est tant d'inhumanité, en fait, c'est terrible d'en arriver à une dégradation pareille des êtres humains. Ça, c'était vraiment terrible, ouais.
C'est vrai qu'il y a des histoires vraiment où on ne peut même pas dire de mots pour les décrire, c'est terrible. Mais du coup, comment vous avez réussi à aussi gérer, pour eux c'était difficile bien sûr de raconter l'histoire, mais vous de votre côté, comment vous gériez justement vos émotions, que ce soit d'ailleurs durant ces interviews ou même au quotidien, puisque c'est des personnes que vous côtoyez quotidiennement dans votre travail, j'imagine.
Ouais. Bah ça, c'est dur des fois, effectivement, quand les gens ils racontent des choses très difficiles qui leur sont arrivées. Mais j'essaie toujours de me rappeler que c'est pas à moi que c'est arrivé. Donc, je peux pas m'effondrer moi, en fait. En tout cas, pas en face d'eux. Si les gens me racontent quelque chose, il faut avoir les épaules pour le recevoir, en fait. Parce que sinon, si on, nous aussi, on est triste, ou s'ils voient qu'on est triste, trop triste, enfin, je veux dire qu'on n'arrive pas à entendre ce qu'ils disent, et ben après, ils vont être désolés pour nous. De dire, ah, désolé, je te raconte ça, et ça te rend triste, et tout ça. Donc, il faut se rappeler qu'on n'a pas vécu, quand même, ce que les gens racontent, et que s'ils ont envie de raconter, voilà, il faut être là pour l'entendre, mais c'est vrai que c'est pas facile, des fois. Hein, parce que, surtout que, après, j'ai fait beaucoup de recherches aussi, vidéos et tout ça, pour pouvoir dessiner les lieux. Avec le Guinéen, par exemple, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur cette maison-prison, où il a été enfermé pendant de longs mois, pour pouvoir dessiner les espaces, etc. Donc, on est allé un peu de façon chirurgicale sur les souvenirs et tout ça. Mais, quelque part, je pense que quand même, ça a libéré la parole. Parce qu'aujourd'hui, ils m'en parlent encore. Et voilà, ils sont en paix, c'est un grand mot quand même. Mais peut-être un petit peu plus léger par rapport à ça, en tout cas. Il n'y a pas de regret, en tout cas, d'avoir raconté.
Ok. Est-ce que, je sais pas du coup, mais ça me vient comme ça, mais est-ce que, je sais pas s'ils sont en capacité de lire en français pour tous, mais est-ce qu'il y en a certains qui ont pu lire ta BD?
Bah tous, je leur ai, alors il y en a qui lisent pas très bien, et en plus c'est dans un autre alphabet que pour certains, mais moi je l'ai relu avec tout le monde, de toute façon, pour être sûr que les gens étaient bien, voilà, d'accord. Et puis, il y en a qui ont pu le faire lire à d'autres personnes, qui ont pu le montrer à d'autres gens. Donc, ça a été un moyen aussi pour eux de raconter leur histoire à d'autres personnes.
Mmh. Okay. Ouais. Dans cette BD, on découvre ces portraits aussi, donc, mais bien sûr aussi votre quotidien à l'AMDH, par exemple, où vous organisez beaucoup d'activités avec les apprenants. Je pense par exemple à des défilés de mode, des tournois de foot, des festivals de talent, ou bien d'autres choses encore. Est-ce que vous avez un souvenir parmi tout ça, que vous souhaitez partager quelque chose qui vous a marqué, je sais pas, comme ça?
Bah, les défilés de mode internationaux qu'on fait, on en fait plusieurs par an, et ça c'est toujours un grand grand succès, parce que les personnes, elles mettent les beaux vêtements traditionnels, et là on se rend compte que nous en France, on n'a plus de vêtements, et on n'a plus de musique traditionnelle, et il y a un genre de fierté comme ça qui se propage, où chacun il est porteur de sa culture, et c'est assez beau quoi d'entendre la musique, la façon de danser, qui est très différente selon les pays. Certains ils vont danser avec les épaules, d'autres avec le bas du corps. Enfin, et là, on se rend compte vraiment du monde, en fait, et qu'on appartient au monde. Donc, c'est des moments très enrichissants, très beaux, en fait. Ouais.
Et vous faites preuve d'imagination aussi avec vos collègues pour développer toujours plus d'activités, toujours plus de choses pour créer du lien. Se faire rencontrer les gens et puis aussi du coup pratiquer la langue française. Entre autres, il y a quelque chose que vous appelez le café international. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur là-dessus?
Oui, c'est un grand atelier de conversation. Maintenant, il a au moins 6 ans, je crois. Et l'idée, c'est chaque semaine, les gens viennent et simplement discutent de tout et de rien. Il n'y a pas de sujet imposé. Il n'y a pas de. Voilà, j'ai enlevé même les chaises pour que les gens ils soient debout pour pouvoir fluctuer d'un groupe à l'autre sans être coincés. Avec des gens avec qui ils n'arrivent pas à parler ou communiquer, où c'est plus difficile. Et ça marche très très bien. Chaque semaine, il y a 25-30 personnes qui viennent et du coup qui discutent de tout et de rien. Il y a des grandes amitiés qui se sont faites. Et voilà, les gens viennent du monde entier et simplement discutent ensemble. Ça marche bien, ouais.
De l'autre côté, dans le bouquin, il y a aussi quelque chose qui revient très souvent. C'est l'envers du décor pour certaines personnes qui ont un véritable parcours du combattant dans leur quête de régularisation ici en France ou de demande d'asile. Oui. Parfois d'ailleurs, peut-être qu'on mélange un peu plein de choses là-dedans parce que tout le monde ne sait pas forcément exactement comment ça se passe pour avoir justement accès à des droits en France pour ces personnes. Il y a justement une notion qui revient très souvent, c'est la procédure Dublin. Si je ne me trompe pas, oui. Est-ce que peut-être que, c'est difficile peut-être de l'expliquer rapidement comme ça, mais qu'est-ce que c'est en fait cette procédure Dublin?
En fait, les gens quand ils arrivent, alors ça dépend en quelle personne, si les gens n'arrivent pas pour le travail, ou s'ils, enfin, en tout cas, s'ils craignent d'être persécutés dans leur pays d'origine, en arrivant en France, ils font une demande d'asile qui va être traitée par l'administration, qui va être acceptée ou non. Si elle est acceptée, les personnes deviennent réfugiées. Si elle n'est pas acceptée, ils deviennent déboutés. Mais avant ça, et depuis quelques années, il y a la procédure Dublin qui dit qu'on doit demander, en tout cas, là où on arrive en premier, là où on donne nos empreintes, où on prend les empreintes des personnes, c'est ce pays-là qui doit traiter la demande d'asile en priorité. Le problème, c'est que c'est souvent les pays à côté de la Méditerranée, en fait, où les gens ils arrivent soit en bateau, soit par... Donc c'est la Grèce, c'est l'Italie, c'est l'Espagne. Et donc les pays se renvoient un petit peu comme des balles, les personnes, pendant de longs mois de procédure, où les gens n'ont pas vraiment de droit, ne peuvent pas vraiment demander l'asile. Donc c'est tout un entre-deux très très long et très difficile pour les personnes, parce qu'ils ne savent pas du tout s'ils vont pouvoir faire leur demande d'asile dans le pays qu'ils ont choisi, donc pour nous c'est la France, et ils ne savent pas combien de temps ça peut prendre. Et ça peut prendre très très longtemps, plusieurs années. C'est vraiment de la souffrance bureaucratique, administrative, c'est très très lourd pour les personnes. Ouais.
Qui engendre du coup des difficultés, de la souffrance psychologique bien sûr. Oui. Tout ça est décrit dans le livre et il y a d'ailleurs des pages un peu dédiées à expliquer qu'est-ce que c'est que cette procédure Dublin. Vous pouvez aussi bien sûr, les chers auditeurs, auditrices, aller en savoir plus sur internet. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer. Vous expliquez aussi du coup dans la BD que vous essayez de les accompagner souvent dans leurs démarches administratives qui peuvent être très lourdes. On imagine encore plus pour eux. Pour des gens qui parlent pas français. Oui. Donc, il y a quelque chose aussi, une autre notion qui revient souvent, c'est cette dans lesquelles vous les accompagnez, cette l'OFPRA, les convocations à l'OFPRA.
L'OFPRA, oui. L'OFPRA, l'Office français de réfugiés, des apatrides. J'ai peut-être oublié un mot. Oui, c'est la première instance en fait qui va traiter la demande d'asile. Donc, les gens quand ils demandent l'asile, ils attendent une convocation à l'OFPRA qui est à Paris, où ils vont. Donc, une fois qu'ils sont convoqués, ils vont là-bas et ils passent devant un juge qui va. C'est pas un juge, c'est un officier de l'État français, je pense, qui va décider si oui ou non la demande elle est recevable. Si c'est oui, la personne devient, on va dire, obtient le statut de réfugié, avec différentes déclinaisons, mais voilà. Si c'est non, la personne est déboutée, et elle a la possibilité de faire un appel à la Cour nationale du droit d'asile. Et donc là, il faut attendre une nouvelle convocation, repréparer avec un avocat son témoignage, en fait, et on va être écouté. Donc là, c'est devant une cour. Et là, de nouveau, soit c'est positif et on obtient le droit d'asile, donc on devient réfugié, ou alors on est débouté de nouveau et là ça commence à être vraiment très compliqué. Tout ça, ça prend plusieurs années, c'est très long en fait.
Et tout ça est bien décrit d'ailleurs dans la BD. Pour rappel, nous parlons donc de Personne ici ne sait qui je suis, une BD écrite par Colline Picot qui est en ce moment avec nous sur Radio Grésivaudan, autrice, dessinatrice et professeure de français pour les étrangers dans les maisons d'habitants MDH à Grenoble. J'avais encore juste peut-être quelques questions pour finir, Colline. Pourquoi vous avez dit que c'est vous qui dessinez dans la BD, si je ne me trompe pas, mais pourquoi vous avez choisi ce format BD pour retranscrire toutes ces histoires?
Moi, j'aime bien les BD reportages, justement, parce que ça permet d'accéder à une réalité, mais par le dessin, par une façon narrative un peu plus facile, peut-être qu'un article de presse ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai beaucoup lu de la BD reportage, comme Joe Sacco, qui est un peu mon maître. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire un peu la même chose, quoi. Un reportage, mais en images. Je trouve que c'est une façon plus facile, peut-être, d'intéresser les gens ou de découvrir des histoires, quoi.
C'est vrai que ça rend le sujet qui peut être difficilement accessible, tout de suite un peu plus, un peu plus accessible à travers cette BD. Pourquoi ce titre aussi? D'où il vous est venu? Personne ici ne sait qui je suis, comment vous l'avez trouvé?
Ça, c'est dans un écrit de Hannah Arendt, ça s'appelle « Nous autres, un manifeste, nous autres réfugiés ». Elle raconte une foule d'étrangers à New York, de juifs immigrés à New York, juste à l'avant-guerre, il me semble. Et dans cette foule, il y a un docteur et qui dit « Voilà, ici, personne ici ne sait qui je suis, quoi ». En fait, ça m'a frappée, c'est ça, les gens en immigrant, en ayant changé de pays, ne sont plus personne. Ils sont plus le cousin de quelqu'un, la sœur de quelqu'un. Personne ne les connaît, en fait. Ils sont plus identifiés comme le voisin et tout ça, comme le docteur, comme le boucher. Et donc, nous, notre travail, c'est de recréer une identité aux personnes, de leur redonner un nom, de leur redonner des liens, pour qu'ici, ils puissent exister, en fait. Et c'est pour ça que ce titre, il m'a plu, en fait. Ça m'a vraiment parlé, parce que les gens ont besoin de retrouver cette identité un peu perdue sur le chemin migratoire.
Personne ici ne sait qui je suis, donc cette BD est sortie aux éditions Le Monde à l'envers, qu'on accueille régulièrement sur Radio Grésivaudan. Vous pouvez retrouver la BD dans bon nombre de librairies, j'imagine. N'hésitez pas, de Colline Picot aussi, vous avez sorti plus récemment plusieurs autres formats de BD aussi, des plus petits formats d'une collection qui s'appelle Nous Autres. Il y en a plusieurs là, j'ai peur d'écorcher les titres, mais Niloufar, si je ne me trompe pas.
Oui, Niloufar. Ouais, ça c'est des portraits de femmes, toujours en BD reportage. C'est quatre petits portraits de femmes. Niloufar, une femme afghane qui raconte la prise du pouvoir par les talibans en 2021 et la fuite du pays. Awa, c'est une Guinéenne qui parle du mariage forcé et de l'excision en Guinée. Et Diane, c'est une Brésilienne qui a vécu en orphelinat et qui raconte un peu cette enfance spéciale au Brésil. Et le dernier, c'est le local des femmes. C'est un accueil de jour à Grenoble pour les femmes, en grande précarité, en errance. Et j'ai fait un reportage là-bas sur cet endroit qui est vraiment atypique, où les femmes viennent passer la journée, se doucher, faire un petit somme. Et ça s'appelle le local des femmes.
Voilà, là on est sur des plus petits formats qui se lisent en une dizaine de minutes, mais tout aussi intéressant. Et d'ailleurs, pour finir, je crois, si je ne me trompe pas, Colline, que vous donnez une rencontre un petit peu demain soir, si c'est bien ça.
Oui, demain, alors c'est dans un jardin partagé à Fontaine. Il y a toutes les informations sur mon site. Et le 22 novembre, il y aura une rencontre à 18h à la librairie La Caverne, qui est rue Montorge, à 18h le 22 novembre.
À Grenoble cette fois-ci.
À Grenoble, oui.
Fontaine demain soir, en tout cas, le mardi 5 novembre à 18h, si vous souhaitez rencontrer et peut-être acheter quelques bouquins. Merci beaucoup, beaucoup, Colline, pour votre temps. Ça fait un moment qu'on vous retient. Merci beaucoup pour toutes vos réponses et pour tous ces beaux livres que vous nous offrez. Je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter une dernière chose.
Non, merci beaucoup pour l'invitation.
Avec grand plaisir. On se quitte donc sur un titre de IAM qui s'appelle « Étranger ». Merci Colline, à bientôt.
Merci.
Citoyen du monde, enivré à la vie, papier rectangle pour une terre ronde. Je préfère être sans souci, un étranger à l'étranger, qu'étranger dans mon propre pays. Citoyen du monde, enivré à la vie, papier rectangle pour une terre ronde. Je préfère être sans souci, un étranger à l'étranger, qu'étranger dans mon propre pays. Loin des index accusateurs qui ont mis les voiles vers la peur. Laisse-moi refermer le sac et les grolles.